Bon après-midi, frères et sœurs. C'est un privilège de pouvoir vous adresser la parole aujourd'hui. Ceux à qui j'ai parlé depuis la fête ont exprimé qu'ils avaient passé une fête très inspirante, très enthousiasmante. Et en ce qui me concerne avec ma famille, ça a été la même chose. Et comme c'est souvent le cas avec les transports aériens ces jours-ci, notre voyage de retour à la maison a été beaucoup plus long que nous y attendions. Nous avons passé plusieurs heures d'attente dans les aéroports à cause des délais dans les vols dus à la mauvaise température. Et finalement, l'avion s'est présenté, puis nous avons pris la route des airs vers le prochain aéroport, où nous devions changer d'avion. Mais parce qu'il y avait eu ces délais, nous avions manqué l'avion. Alors, nous sommes restés à l'aéroport pendant un certain temps. Nous avons planifié un autre vol. Les heures ont passé. Et vous savez, il m'a semblé que ces heures d'attente étaient beaucoup plus longues qu'elles l'ont été en réalité, selon les propos de mon épouse. Mon épouse m'a dit que ça avait été moins long en réalité, mais moi, ça m'a semblé très long. Mais nous avons donc planifié un autre vol pour le jour suivant. Mais j'ai beaucoup réfléchi au cours de ces heures. Et je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que je dois apprendre à partir de cette expérience? Un de mes passages favoris dans les Écritures, c'est Romains 8, 28. Et souvent, je pense à ce verset-là, particulièrement lorsque les choses ne vont pas très bien pour moi, lorsque je rencontre des difficultés, des épreuves. Et je réalise que même si on ne comprend pas pourquoi ces choses-là nous arrivent, on peut avoir une confiance absolue en celui qui a fait cette promesse-là, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. J'ai réfléchi beaucoup à ça au cours de ces nombreuses heures d'attente à l'aéroport. Et j'ai réalisé qu'un des éléments communs dans lesquels nous développons la stature de Christ à travers nos épreuves, c'est la patience et la foi vivante. Ce sont des leçons clés que nous devons apprendre au cours des épreuves qui nous accablent parfois. Alors aujourd'hui, j'aimerais examiner avec vous la patience. Qu'est-ce que c'est? Il y a différents aspects à la patience. Bien sûr, lorsque je dis le mot patience, ça fait référence à peu près à la même chose dans vos esprits que dans le mien, mais il y a quand même des nuances à apporter. Le dictionnaire Webster définit la patience comme étant ceci: le fait de supporter une douleur ou une épreuve calmement ou sans se plaindre. C'est une bonne définition. Un autre dictionnaire donne des synonymes au mot patience: persévérance, endurance ou modération. Nous allons voir ensemble maintenant quelques aspects de ce qu'est la patience à partir de la parole de Dieu. Allons dans 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, et nous allons commencer à lire au verset 20. 1 Pierre, le chapitre 2. Et commençons au verset 20. Il y a différents mots grecs qui sont traduits par le mot patience, et selon les différentes versions de la Bible, il y a parfois certaines nuances ou certains mots différents qui sont employés pour désigner la patience. 1 Pierre 2, verset 20 ici. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc, c'est une grâce devant Dieu si on supporte patiemment la souffrance, même si on fait le bien. Voici un aspect de la patience. Ça veut dire donc le fait d'endurer lorsque nous rencontrons différentes difficultés, que nous connaissons certaines épreuves. Alors, il est dit ici que si on endure avec patience, que si on persiste dans la patience, à ce moment-là, c'est une grâce devant Dieu. Et on voit que c'est relié directement à l'exemple que le Christ nous a donné, on le voit au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Lorsqu'il a souffert, il n'a pas menacé les autres autour de lui. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Appliquer ceci dans nos vies, pour le faire, nous avons l'exemple de Christ en action. Lorsque lui, le Christ, a été battu, lorsqu'il était dans la souffrance, il n'a pas répondu ou réagi de la même façon, si vous voulez. Et chacun d'entre nous, nous savons à quel point c'est difficile de ne pas réagir de la même façon avec laquelle nous sommes traités. C'est difficile de ne pas réagir de la même façon. J'ai vu ça lorsque nous attendions à l'aéroport chez différentes personnes. Il y avait différentes réactions. Certains individus étaient verbalement abusifs. D'autres ne critiquaient pas ouvertement, mais avaient des remarques acerbes. Écoutez, ce n'était pas la faute des employés des compagnies aériennes. Il y avait du brouillard. Mais lorsque nous souffrons de quelque chose et que les choses ne vont pas comme nous le souhaiterions, il nous faut nous rappeler l'exemple du Christ, un exemple de patience. Allons maintenant à 1 Corinthiens, chapitre 13, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Nous allons voir un autre aspect de la patience ici. 1 Corinthiens, le chapitre 13, et nous allons commencer à lire au verset 4. C'est le chapitre de l'amour, bien sûr, 1 Corinthiens 13 et le verset 4. Ici, on décrit l'amour divin réel. L'amour est patient. Mais vous, la première caractéristique de l'amour, c'est la patience. Le mot grec utilisé ici désigne aussi une persévérance dans l'épreuve, une patience à toute épreuve. L'amour, donc, est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 7, un peu plus loin. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour véritable est patience. Je me rappelle un jour, je parlais avec quelqu'un, et cet individu-là était fâché, était en colère envers quelqu'un d'autre. Et j'ai parlé de patience, et il m'a dit, « Oui, 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 la patience. J'ai supporté, j'ai supporté, j'ai supporté, et ça suffit. » Il y avait une longue histoire derrière tout ça, en ce qui concerne ces deux individus. Mais voyez-vous, pensons-y comme il faut. Personne d'entre nous ne voudrait que Dieu réagisse comme ça envers nous. J'ai supporté, j'ai supporté, j'ai supporté, et c'est assez maintenant. Nous ne voudrions pas que ça nous arrive de la part de Dieu. C'est une déclaration grave de conséquences. Cette personne-là était frustrée, tout simplement. Chacun de nous, on peut, en rétrospective, voir lorsqu'il nous est arrivé d'être frustré envers quelqu'un d'autre. J'espère que nous ne sommes pas exprimés de cette façon-là à ce moment-là. Mais il nous faut réaliser que l'amour réel va produire la patience dans nos vies alors que nous entrons en rapport avec les autres individus autour de nous. C'est cette patience à toute épreuve, c'est cette persévérance dans l'adversité ou dans l'épreuve. La patience endure. Voyez-vous, la patience n'est pas simplement le fait d'attendre lorsque on est confortable, lorsque ça va bien, lorsqu'on a bien mangé, lorsqu'on est assis confortablement. Non. La patience est décrite ici comme une persévérance dans quelque chose de difficile, dans l'épreuve, une bonne attitude. Voyons maintenant un autre aspect de la patience dans Philippiens, le chapitre 4, s'il vous plaît. Philippiens, le chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 5, Philippiens, chapitre 4, et le verset 5. Il dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ici, ça veut dire supporter aussi. Le sens de douceur veut dire supporter. Ça vient du mot grec « epikeis » qui veut dire « patience » encore. Donc, que votre patience soit connue de tous les hommes. La patience va évidemment avec la douceur. Le mot ici traduit par douceur, dans Louis II, vient du mot grec « epikeisse ». Et c'est un composite de deux mots grecs « epi » qui veut dire « surimposer » ou « placer dessus » et le mot grec « akeis » ou « echo » qui veut dire « ressembler », c'est-à-dire « copier » ou « être une copie ». Alors, le mot « douceur » ici, ou « patience », vient de ces deux mots-là, « placer dessus » et « copier ». Vous vous rappelez comment autrefois les pièces de monnaie étaient faites? Il y avait deux moules métalliques allant l'un sur l'autre. On les chauffait. À l'intérieur de chacun de ces moules se trouvait une image sculptée. Et on mettait entre ces deux pièces métalliques chauffées une pièce de métal plus mou et on pressait les deux parties métalliques à ce moment-là. Et ça formait une pièce de monnaie, une copie de l'image contenue dans le moule métallique du haut et dans le moule métallique du bas. Alors, voyez-vous, nos épreuves doivent produire quelque chose en nous. Il y a un but à nos épreuves et à nos difficultés que nous rencontrons. Quand nous traversons des épreuves, des difficultés, il nous est dit d'endurer patiemment les épreuves, de supporter patiemment les épreuves. Souvent, au moment de nos épreuves, c'est comme si nous étions compressés, s'il y avait beaucoup de pression de mise sur nous. Nous sommes estampillés, gravés, placé sous pression. Pourquoi? Pour refléter l'image de Christ, le caractère du Christ. C'est imprimé en nous, parce que nous devons ressembler de plus en plus au Christ. Alors, il nous est dit ici que votre patience, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Comment y arriver? Comment faire ça? Vous savez, nos actes parlent beaucoup plus fort que nos paroles. On laisse savoir ça aux autres par notre exemple. Le Christ a dit que nous devons être des lumières pour le monde. Ceux autour de nous, ceux avec qui nous venons en contact, doivent voir notre exemple en ce sens de douceur. Et alors que nous traversons les étapes, les épreuves, les difficultés avec patience, les gens doivent voir notre patience. Et à ce moment-là, le Christ nous fait ressembler de plus en plus à lui-même, à son caractère. Au verset 6, nous voyons ici comment arriver à ce que notre douceur soit connue de tous les hommes. que notre patience soit connue de tous les hommes. Comment nous devons mettre ça en pratique? Ça nous dit comment y arriver au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec patience, nous présentons nos besoins à Dieu. Et verset 7, ça décrit les résultats de cette démarche ou de ces actions. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà le résultat qui découle de notre exemple de supporter les épreuves avec patience, avec douceur, en s'en remettant à Dieu. Et nous le faisons dans la prière, en priant Dieu, en le remerciant de tout ce qu'il fait pour nous et en demandant son aide. Mais nous avons à ce moment-là la grande perspective de Dieu. Allons à Hébreux, chapitre 6 maintenant. Hébreux, chapitre 6. Nous avons déjà vu quelques aspects différents de la patience. Nous avons vu différents mots qui sont utilisés pour décrire les différentes facettes de la patience. Voyons maintenant quelques exemples de patience mentionnés dans la Bible. Nous nous efforçons de croître dans la patience, mais nous devons, pour y arriver, faire certaines étapes. Patience, c'est un concept abstrait, mais nous devons le pratiquer dans nos vies pour que ça devienne réel et que ça s'imprime en nous. Et une bonne façon d'y arriver, c'est de regarder les exemples que la Bible nous donne à ce sujet-là. Hébreux, chapitre 6, et nous allons commencer à lire au verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance ou la patience, héritent les promesses. C'est intéressant parce que c'est marqué ici, ne vous relâchez point, ne soyez pas négligents. Parfois, nous pensons à la patience comme à quelque chose de passif, mais une foi réelle, c'est actif. Et il nous est dit ici de ne pas nous relâcher, mais d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Notre attention est attirée tout de suite après sur Abraham, un exemple dans ce sens-là. Verset 13, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, voyez-vous, ayant été patient, a obtenu ce qui lui avait été promis, après qu'il a enduré avec patience. Allons à Hébreux 11 maintenant. Hébreux 11, nous allons voir un peu plus au sujet d'Abraham. Hébreux, le chapitre 11, et nous allons commencer à lire au verset 8. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait, ne sachant pas où il allait. Voyez-vous? Ça rend la patience difficile, bien sûr, lorsque nous ne savons pas exactement ce qui va nous arriver dans la suite. Humainement, nous aimons tous savoir comment notre situation va se terminer, quel va être le résultat de ce que nous traversons. Lorsqu'il arrive des épreuves, nous voulons immédiatement savoir comment ça va se terminer et quand ça va se terminer. Pourtant, dans l'exemple d'Abraham ici, nous voyons qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Et verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous attendons également cette cité. Abraham nous a donné un exemple de grande patience. Allons dans le livre de Job maintenant, Job le chapitre 7. Un autre exemple de persévérance, de patience, Job le chapitre 7, et nous allons ici commencer à lire au verset 2. Ces exemples-là nous aident énormément, ils sont encourageants. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder dans notre Bible et voir les exemples qui sont donnés là, et ça rend nos épreuves plus petites en comparaison des épreuves que ces gens-là ont subies pour la plupart d'entre eux. Ça nous aide à mettre les choses en perspective. Vous connaissez l'histoire de Job et ce par quoi il a dû passer, les épreuves terribles. Vous savez, dans l'espace de très peu de temps, de quelques minutes, ses serviteurs sont venus à lui, un après l'autre, lui décrivant ce qui était arrivé à tout ce qu'il possédait. Et dans l'espace de quelques minutes, il s'est rendu compte qu'il avait perdu tout ce qu'il avait. Il n'a pas maudit Dieu. Et même après ça, Dieu a permis à son épreuve de perdurer. Et même d'aller plus loin parce que sa santé s'est détériorée après ça. Job 7, verset 2, Job décrit ce par quoi il passe. Il dit, « Comme l'esclave ou comme le serviteur ou comme l'employé, si vous voulez, qui soupire après l'ombre. » Lorsqu'on travaille dans un bureau, on a des difficultés à comprendre ça. Mais tous ceux qui travaillent à l'extérieur savent ce que ça veut dire quand le soleil frappe. Je me rappelle, j'ai déjà travaillé dans des champs pétrolifères, dans des gisements pétrolifères, sous le soleil de plomb, et je me rappelle que je cherchais l'ombre, et j'étais heureux les moments de la journée où j'étais du côté de l'ombre pour travailler. Alors, comme l'esclave ou le serviteur qui soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je me dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Je suis rassasié d'agitation ou d'angoisse jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Vous savez, Job décrit ici sa condition terrible, horrible. Et l'épreuve de Job ne s'est pas terminée rapidement. Nous, on peut lire le livre de Job en peu de temps, mais on voit ici que l'épreuve de Job a duré pendant des mois, et il a persévéré, il a été patient, sans savoir comment ça allait se terminer, ni quand ça allait se terminer, son épreuve. Allons à Job chapitre 14, juste un peu plus loin, Job chapitre 14. Et nous allons lire à partir de 14, du verset 14, et ces paroles-là expriment ici un grand espoir. On voit ici que Job exprime un grand espoir au-delà de ce qu'il avait à souffrir physiquement. Et la vision ou la perspective selon Dieu, est très importante pour nous aider à passer à travers nos épreuves. Regardez ce que Job dit dans ces mêmes circonstances. « Si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Durant tous les jours qui me sont donnés, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vienne à changer, selon certaines versions. Tu appelleras alors et je te répondrai. Tu languiras après l'ouvrage de tes mains. » Job ne savait pas pendant combien de temps ces épreuves allaient durer. Ça lui semblait sûrement très long. Pourtant, malgré tout ça, Job a centré son attention sur ce qui allait venir plus tard, la résurrection. Le temps où Jésus-Christ descendra sur la terre et au moment où ceux qui sont morts en Jésus-Christ, reviendront à la vie. Et nous aussi attendons ce moment-là. Et c'est enthousiasmant. Et à travers toutes nos épreuves, nous ne devrions jamais perdre cela de vue. Ça va nous aider à être patients et à persévérer dans l'épreuve, le fait de garder cette grande perspective divine des choses qui s'en viennent. Allons à Psaume chapitre 40 maintenant. Psaume le chapitre 40. Et nous allons lire ici certaines des paroles de David. Et David était un homme habitué à l'adversité. David, vous vous rappelez son histoire, vraiment habitué à l'épreuve, à la difficulté. Il a été oint comme roi sur Israël, mais il a passé après ça, plusieurs années, à fuir. Parce que le roi qui était encore en poste, le roi Saül, cherchait à le faire mourir. Pourtant, voyez ce que David dit, malgré cela, dans le psaume 40, au verset 2. « J'ai mis en l'Éternel mon espérance. » Dans certaines versions, « J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. » Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront la crainte de Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. David a attendu patiemment. Lisez les psaumes, et vous allez voir comment David pensait. Vous allez voir ses combats, ses défis, ses épreuves terribles. Mais ses réactions, vous allez voir que tous les gens autour étaient contre lui. Ses ennemis cherchaient à le tuer. Il était en fuite. Vous savez, nos ennemis autour de nous aujourd'hui n'essaient pas de nous tuer physiquement. Les ennemis de David, à ce moment-là, ne faisaient pas simplement dire des choses mauvaises à son sujet ou ne faisaient pas simplement répandre des rumeurs ou essayer de provoquer chez lui des réactions. Les ennemis de David, alors, n'essayaient pas simplement de le faire paraître insensé. Les ennemis de David voulaient l'assassiner. C'était la réalité. Ils voulaient le tuer. Et David dit ici, « J'ai attendu patiemment que Dieu intervienne. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. » Verset 2. Il n'a pas pris entre ses mains la vie de Saül, comme il en a eu l'occasion à deux reprises. Et qu'est-ce que ces hommes ont dit à David? Ils ont dit à David, « Dieu te livre ton ennemi entre tes mains, tue-le. » Mais il ne l'a pas fait, pas du tout. À un moment donné, il a découpé un coin du pan de la robe de Saül et il l'a regretté après. Parce que, voyez-vous, David considérait que Saül était encore loin de l'Éternel, que c'est Dieu qui l'avait placé là, et qu'en son temps, Dieu allait l'enlever selon sa volonté. Et à une autre occasion, plus tard, David a eu encore une autre occasion de le tuer. Saül dormait avec ses soldats, et David était devant lui. Il aurait pu le tuer. Et son homme de main était à côté de David et lui a dit, « Tue-le !» Et il a dit encore à David, « Laisse-moi le tuer. » Qu'est-ce que David a dit? « Non, ne faisons pas ça. » Voyez-vous, quelqu'un à côté de lui l'invitait à mal agir. David a dit, « Non, j'ai attendu patiemment que l'Éternel intervienne. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. » C'est ça la patience à l'action ou en action. Lorsqu'on vit une épreuve, on ne veut pas entendre parler de patience. Quand j'étais en ligne à l'aéroport, je me suis dit, bon, c'est facile de penser à la patience, mais de l'appliquer dans les faits, ce n'est pas chose facile. Et pourtant, nous avons ici l'exemple de David qui a attendu avec patience et Dieu a entendu sa prière et Dieu est intervenu pour David, comme il interviendra pour vous et moi si nous sommes patients. Et David dit, Dieu s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a sorti du fond de la fosse et il a affermi mes pas. Allons à Philippiens maintenant. Philippiens, le chapitre 4, s'il vous plaît. Nous allons voir ici un autre exemple de patience. Philippiens, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 11. Les Écritures sont remplies d'exemples de serviteurs de Dieu qui ont fait preuve de patience. Ici, on voit le cas de l'apôtre Paul, qui pourtant a vécu des choses terribles, pour ainsi dire, des choses vraiment difficiles. Ce sont des exemples qui nous aident, parce que nous avons des difficultés et des épreuves à passer, et ça nous montre comment réagir, comment faire. Il s'agit de se rappeler ces exemples-là et d'agir de la même façon que ces hommes-là ont agi. Philippiens 4 et le verset 11, Paul déclare ici, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul dit, j'ai appris dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de circonstances, faciles comme difficiles, à être content, à être satisfait, à attendre, à être patient. Vous savez, pour bien saisir ça, il nous faut penser à l'expérience que Paul avait vécue lorsqu'il a écrit cette lettre-là où il dit « J'ai appris à être content dans toutes les circonstances où j'ai pu me trouver. » Paul n'avait pas eu auparavant une vie facile, vous savez. Allez à 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11. Et nous allons commencer au verset 23. 2 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 23. Ici, nous allons voir les expériences que Paul avait vécues avant d'écrire le passage que nous avons vu. On voit les souffrances qu'il a dû endurer, les épreuves incroyables. Et rappelez-vous, les expériences dont nous allons voir la description ici se sont produites avant qu'il écrive le passage où il dit « J'ai appris à être content dans toutes les situations où je me suis trouvé. » Alors donc, 2 Corinthiens, le verset 23, Paul dit « Sont-ils ministres de Christ? » Je parle en termes extravagants. Il parle ainsi pour vraiment souligner un point. Les gens s'en prenaient à lui, les gens s'enorgueillissaient et voulaient rabaisser Paul. Mais Paul dit ici, comparons des pommes avec des pommes. Sont-ils des ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Donc, bien plus que tous ceux qui me critiquent et qui s'en prennent à moi. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs. 40 coups, moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme, c'est-à-dire dans l'océan. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui peut se comparer à Paul et qui peut comparer son épreuve à celle de Paul. Vous savez, on regarde... On regarde les gens autour de nous et parfois, humainement, on est porté à dire « J'aimerais ça changer d'épreuve avec vous. » On ne serait pas tenté, je pense, de dire ça en ce qui concerne Paul. Vous savez, c'est facile de lire cette liste d'épreuves qu'a subi Paul ici de façon très rapide, mais si vous y songez, pensez à ce qu'il a enduré ou à ses souffrances. Horrible. La moitié de ces souffrances-là serait quelque chose d'énorme. 5 fois, verset 24, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Ces coups de fouet étaient horribles. Ils déchiraient la chair. Ça allait jusqu'aux os. Ça allait jusqu'à couper la chair jusqu'à l'os. Et ça ne lui est pas arrivé seulement une fois ou deux, mais il dit 5 fois, j'ai reçu ce traitement terrible. 3 fois, j'ai été battu de verge, verset 25. Une fois, j'ai été lapidé. Vous savez, lorsque quelqu'un était lapidé, on arrêtait de lancer des pierres lorsqu'on pensait que la personne était morte. Ça lui est arrivé. Et il dit fréquemment, j'ai été en péril sur les fleuves. 3 fois, j'ai fait naufrage. C'est quelque chose. J'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme, c'est-à-dire dans les eaux de la mer. Imaginez-vous. Paul dit, pendant une nuit et une journée, j'ai été dans les eaux de la mer. Vous imaginez, il y avait dû avoir une très grosse tempête et Paul a dû prier Dieu pour recevoir sa protection. Paul avait dû demander à Dieu qu'il protège le bateau. Mais le bateau a sombré. Et Paul s'est retrouvé dans l'eau. Et à ce moment-là, Paul a sûrement prié Dieu d'être sauvé et probablement a demandé à Dieu de le sauver rapidement. Toutefois, il dit, une nuit et une journée, j'ai été dans l'eau de la mer. Vous savez, à mesure que les heures se sont succédées, Paul avait sûrement l'espoir que Dieu allait faire luire son visage, pour ainsi dire, sur lui et le sortir de là. Pendant une nuit et une journée, Paul a vécu dans les eaux de la mer et finalement, il a été secouru. Mais ça n'a pas eu lieu immédiatement. Ça a pris du temps. Paul est un homme de douleur. Paul est un homme de douleur. Et par après, c'est lui qui a écrit « J'ai appris à être content dans quelques circonstances où je me trouve. » C'est formidable. Quoi que ce soit que nous vivions, Paul a vécu des choses grandement plus terribles. Et Paul dit, j'ai appris à être content, même là-dedans. Alors, les Écritures sont remplies de magnifiques exemples à ce sujet-là, d'hommes et de femmes qui ont été patients, qui ont enduré malgré les épreuves. Nous devons croître spirituellement. Voyons maintenant comment nous mettons ça en pratique dans nos vies. Voyez-vous, c'est facile de lire concernant la patience dans un dictionnaire, de voir différents aspects de ce qu'est la patience. Et c'est intéressant de lire des exemples concernant ceux qui ont été patients, mais nous devons aller un pas plus loin. Il faut que la patience soit partie intégrante de notre vie, de sorte que ceux autour le voient, le constatent, comme nous l'avons vu dans un passage biblique plus tôt. Quand quelqu'un vous décrit, est-ce que le mot patience est un mot que la personne va utiliser pour donner une de vos caractéristiques? Allons à Matthieu chapitre 24 et nous allons commencer à lire au verset 13. Matthieu 24. Voyons ce qui nous est dit ici. Ça parle des temps de la fin, là où nous sommes, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, vous avez encore l'élément de patience. Persévérer jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. Vous savez, si on veut être sauvé, il faut persévérer jusqu'à la fin. Être patient. Cette déclaration vient immédiatement dans la foulée de la description de l'état de la situation autour de nous au temps de la fin. On le voit au verset 12, juste auparavant, le Christ dit « Parce que l'iniquité ou le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Voilà une description, non pas du monde, c'est une description de ceux qui savent, de ceux qui connaissent la voie divine de vie, ceux dont l'esprit a été ouvert à la compréhension, ceux qui ont été appelés à comprendre le plan de Dieu et à accomplir son œuvre. Et le Christ dit, néanmoins ici, parce que l'iniquité ou le péché ou le mal se sera accru, c'est-à-dire à cause des choses qui nous entourent, à cause des péchés de d'autres autour de nous, l'amour du plus grand nombre se refroidira. En d'autres termes, il y a des personnes qui vont se laisser détourner, qui vont se laisser être découragées parce qu'ils voient quelqu'un d'autre mal agir autour de quelqu'un d'autre qui devrait savoir mieux. Parce que l'iniquité ou le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un état de choses qui doit arriver dans l'Église au temps de la fin. Plusieurs vont se sentir blessés et vont se laisser être offensés par quelque chose que quelqu'un a dit ou par quelque chose que quelqu'un n'aura pas dit. Parfois, des personnes sont fâchées à cause de ce que ne dit pas une autre personne à côté d'eux. Le Christ dit précisément ici, à cause de cela, certains vont se laisser être blessés, vont s'offenser et vont s'éloigner et vont se refroidir. Frères et sœurs, on ne peut pas contrôler les autres. Et on n'a pas à répondre pour les autres, mais nous devons répondre chacun de nous individuellement pour ce que nous sommes et ce que nous faisons et comment nous réagissons individuellement. Il est écrit ici que plusieurs vont permettre à leur amour de se refroidir à cause de certaines fautes qu'ils voient autour dans l'Église, autour d'eux. Le Christ continue au verset 13 en disant « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça, c'est la patience. C'est une patience active, ce n'est pas une patience passive. Parfois, lorsqu'on pense à La patience, on pense simplement de se croiser les bras, de s'asseoir, d'attendre de façon résignée, adviendra ce que pourra. Mais lorsque nous lisons ce en quoi consiste vraiment la patience dans la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. La patience est quelque chose d'actif dans la parole de Dieu. On ne trouve pas le mot résignation comme étant un aspect de la patience, pas du tout. Ce qu'on découvre dans le sens du mot patience, ça veut dire endurer, persévérer, avancer malgré la situation. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans le même contexte ici, allons plus loin. Écoutez, nous attendons tous avec impatience le retour de Christ. Nous attendons tous avec joie, avec enthousiasme le retour du Christ. Pourtant, il est écrit que certains vont dire « Mon maître tarde à venir », c'est écrit. Certains membres de l'Église vont dire « Ah, oh, j'ai déjà entendu ça. C'est la même chose que j'ai déjà entendu. » Non, ce n'est pas la même chose. Regardez ce qui se passe dans le monde, écoutez les nouvelles, lisez les journaux. Nous pouvons voir très clairement que ce n'est pas la même chose qui se reproduit. Les prophéties s'accomplissent de plus en plus. Dans cela, il nous faut être patient et attendre le moment du retour de Christ. Regardez Matthieu 24, verset 20. Qu'est-ce que nous devons être en train de faire? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Voyez-vous? Donc, il nous faut prier, demander que son règne vienne. Vous vous rappelez de la prière, exemple, que le Christ a donné? Ce modèle de prière nous indique qu'il nous faut chaque jour demander à Dieu que son règne vienne, l'attendre avec enthousiasme, avec joie, avec persévérance, avec patience, avec détermination, comme les serviteurs de Dieu décrit dans la Bible. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Et ça doit nous remplir d'excitation et d'enthousiasme. C'est tout proche. C'est là devant nous, le retour de Christ et l'établissement du gouvernement de Dieu sur la terre. Regardez le verset 44 du même chapitre de Matthieu 24. Il est écrit ici, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. » Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il nous faut être patient. Si on savait avec certitude quel jour le Christ reviendra, imaginez-vous comment le monde se comporterait si le monde entier le savait. Il y aurait toutes sortes de choses bizarres qui se passeraient chez certains, j'en suis certain. Mais non, il nous est dit, tout simplement, soyez prêts. Soyez prêts. Nous ne savons pas exactement quand. Mais la directive qui nous est donnée, c'est d'être prêts en tout temps. Voyez le verset 46 maintenant. « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Pas celui que son maître trouvera les bras croisés en attendant qu'il revienne. Non, le vrai serviteur de Dieu sera en train de faire des choses, sera en train de se préparer, sera en train de faire l'œuvre. Paul parle de la vie chrétienne comme d'une course, comme quelque chose qui est actif, qui demande des efforts, de grands efforts, en fait. Vous savez, il nous faut vaincre, il nous faut croître. Mais ça ne vient pas facilement. Et le monde autour de nous ne nous aide pas en ce sens-là. Au contraire, il est contraire à nous. Alors, c'est pour ça que ça demande de grands efforts pour vaincre, pour avancer, pour croître dans la grâce et dans la connaissance, pour acquérir le caractère de Christ. Allons à Jacques, le chapitre 5, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 5. Et nous allons commencer à lire ici au verset 7. Jacques 5, donc. Et ici, l'apôtre nous parle également de patience. C'est un thème qui revient tout au long de la Bible. Jacques 5 et le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il utilise un exemple en agriculture ici pour nous montrer qu'il y a un certain temps qui doit passer et qu'on doit être patient. Verset 8, « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il nous est dit de développer la patience, d'être patient, d'attendre positivement et activement. Puis il continue en décrivant certains aspects auxquels nous devons réfléchir concernant la patience. Il dit bien au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres. Le juge est à la porte. Le Christ est tout proche. Il arrive. » Quand nous pensons à toute l'histoire humaine, il est tout proche le retour de Christ. Nous sommes à la fin de l'histoire. Il faut y penser, il faut le réaliser. Et si on le fait, ça change notre perspective, ça change notre façon d'approcher les autres et de nous comporter envers les autres, ça change notre façon de voir les choses. C'est comme à l'école. Vous vous rappelez, lorsque le temps des examens arrivait, qu'est-ce que les étudiants faisaient? Qu'est-ce que nous faisions? On travaillait très, très fort les derniers jours avant les examens. Bien sûr, si on avait fait ça depuis le début de l'année, ça aurait été plus facile. Mais la nature humaine est portée à attendre, à remettre à demain. Ne faites pas aujourd'hui ce que vous pouvez faire demain. C'est comme ça que la nature humaine pense. Mais écoutez, nous, il faut réaliser que le juge est à la porte. Il y a un sens d'urgence que nous devons avoir. Nous devons être conscients que c'est tout juste devant nous, que le temps se fait court. Demandons à Dieu de nous aider à avoir la patience et à développer la patience. Allons à Matthieu, le chapitre 18, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 18. Quels sont les domaines de notre vie où la patience doit paraître? Vous savez, si quelqu'un devait vous décrire comme étant quelqu'un de patient, sur quoi est-ce que ça devrait être basé? Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans votre vie pour refléter le Christ en la matière? Il y a différents aspects à la patience et ça doit paraître et ça doit venir de l'intérieur. Et une des façons dont la patience doit paraître, c'est dans nos rapports avec les autres. Et c'est quelque chose sur lequel tous et chacun de nous travaillons. Matthieu, chapitre 18, verset 21. Pierre s'approcha de Christ et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce sept fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » Vous savez, l'individu qui m'avait dit, « J'ai assez supporté maintenant, j'ai assez pardonné. » Ce n'était pas le cas du tout. Il y avait une longue histoire derrière ce conflit-là entre les deux individus. Et l'homme disait, je ne peux plus en supporter davantage. Ça ne doit pas être notre cas. Mais parfois, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas sur nos gardes, ça ne prend pas grand-chose pour nous faire tomber, pour nous faire éclater. Un mari et une femme, par exemple, qui sont ensemble depuis longtemps, en viennent à savoir comment l'autre réagit, comment l'autre pense, et c'est bien. Et nous savons quand notre conjoint ou notre conjointe a besoin d'aide ou a besoin d'encouragement. Mais plus nous nous connaissons, plus en même temps nous connaissons les points sensibles des autres, et plus lorsque nous nous laissons aller ou nous manquons notre coup, plus nous pouvons blesser l'autre parce que nous connaissons ses points sensibles. Et il nous faut travailler là-dessus pour agir selon Dieu et non pas selon notre nature humaine. Il nous dit qu'il nous faut être miséricordieux, être patient envers les autres. Le Christ continue ici dans Matthieu 18 en donnant une parabole au verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit ainsi acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Le Christ décrit ici comment ce serviteur méchant n'a pas eu cette attitude de patience et de miséricorde et de bonté envers l'individu qui lui devait une somme beaucoup plus petite. Verset 35, il nous est dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Il nous faut être patient, développer la patience, être miséricordieux, pardonner. Un aspect de la patience, c'est endurer longtemps, persévérer, souffrir longtemps. Et lorsque on est dans cette situation-là, on a l'impression que ça dure longtemps. Quand j'étais à l'aéroport au cours de ces heures d'attente, il m'a semblé que ça a été beaucoup plus long que ça a été en réalité. C'est comme ça, lorsqu'on passe une épreuve, on a l'impression que ça ne finit pas, que c'est tellement long. Et quand je réfléchis au nombre d'heures réelles que j'ai attendues dans l'aéroport, c'était en réalité beaucoup moins long que je ne le pensais. Parce que lorsqu'on est au milieu d'une épreuve, ça nous semble beaucoup plus long. Parce qu'on a l'impression que ça finira jamais. Et pourtant, il nous faut avoir cette attitude de patience. Patience envers les autres. Allons à Jacques, le chapitre 1, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 1. Pensez comment la patience se développe. Ce n'est pas comme la connaissance. Pour avoir la connaissance, on étudie et on augmente la connaissance. On peut augmenter notre connaissance en acquérant la connaissance de certains faits. Et on peut savoir au sujet d'un thème ou d'une question. Mais le fait de savoir ça, ça ne fait pas de la chose une partie de nous-mêmes. La patience, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit en nous seulement à travers l'expérience, un jour à la fois. une heure après une autre heure. La patience se développe, se bâtit par l'expérience, dans le temps. Lorsque nous prions Dieu, lorsque nous adressons des prières à Dieu, on ne peut pas choisir quelle prière Dieu va répondre immédiatement ou plus tard. Vous savez, il y a la réponse oui et il y a la réponse non, mais il y a aussi la réponse pas tout de suite, pas immédiatement, ou il y a aussi la réponse nous allons attendre et nous allons voir. Mais oui, il y a différentes possibilités de réponse. C'est comme des parents avec les enfants. Parfois, la réponse à une demande, c'est oui, maintenant. Parfois, c'est oui, mais pas tout de suite. Lorsque Dieu nous dit oui, mais pas tout de suite, comment on se sent à ce moment-là? Lorsque on n'obtient pas ce qu'on a demandé, lorsqu'on n'obtient pas immédiatement, on a l'impression, humainement parlant, c'est notre conclusion logique immédiate, qu'on n'a pas été répondu ou que la réponse est non. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Quand Dieu sera prêt à rendre effective sa réponse affirmative, nous aurons ce que nous demandons. Ce n'est pas parce qu'il ne nous le donne pas immédiatement qu'il ne nous le donnera pas plus tard. C'est Dieu qui choisit, et selon son temps. Lui sait quand c'est le meilleur moment et quelle est la meilleure façon de répondre à nos demandes. Jacques 1, chapitre 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Vous savez, la raison pour laquelle nous devons considérer ça comme une joie lorsqu'on est soumis à des grandes difficultés ou à de grandes épreuves, c'est parce que nous avons une compréhension du pourquoi ces épreuves-là nous arrivent. Et quelles que soient les adversités que nous connaissions, quelles que soient les souffrances que nous avons à connaître ou à traverser, il y a une raison à tout cela. Dieu en est au courant et Dieu travaille avec ça. Même si nous ne comprenons pas immédiatement comment Romains 8, 28 s'applique, nous pouvons avoir une entière confiance et une foi totale en Dieu, dans le fait que Dieu est en train d'opérer des choses en nous et que cela va concourir à notre bien et va bien se terminer. Il y a un but à ce que nous vivons et ça nous mène vers la perfection. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait ou mature et accompli. Sans faillir en rien. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il nous faut garder nos yeux sur ce qui nous attend, sur ce qui vient en ce qui nous concerne. La réalisation de cette promesse extraordinaire qui va arriver avec certitude, et c'est là pour nous. La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et vous savez, ceux qui aiment Dieu lui obéissent, s'appliquent à lui obéir. Mais voyez-vous, il y a un but réel, profond, aux difficultés et aux épreuves que nous connaissons. Voyez-vous, lorsque nous souffrons, parfois, nous avons l'impression de subir une injustice. Parfois, c'est parce que nous n'avons pas la vue d'ensemble ou que nous n'avons pas tous les faits. Parfois, nous voyons un de nos proches autour de nous souffrir et nous avons l'impression qu'ils sont victimes d'une injustice. Peut-être que c'est le cas, mais nous n'avons pas tous les faits. Dieu a tous les faits. Dieu sait ce qu'il fait. Et il nous faut être patient et réaliser que la patience vient lorsque nous devons attendre et ça vient seulement par l'expérience, dans la pratique, dans la dimension temporelle. Et lorsque nous vivons ainsi, lorsque nous affrontons nos difficultés, nos épreuves de cette façon-là, nous augmentons notre patience. Il y a une croissance dans cette caractéristique de la personnalité du Christ en nous. Romains chapitre 5 maintenant, Romains chapitre 5, et nous allons commencer à lire au verset 1. Nous voyons le même concept ici. Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. » Voyez-vous, ici, c'est la patience encore. « Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, ou la patience, si vous voulez, et la patience produit le caractère, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Il y a un but à tout cela. Il y a un espoir qui nous anime, qui nous habite. Et c'est pourquoi nous pouvons nous réjouir, même dans des circonstances difficiles et adverses, parce que nous savons vers où nous nous orientons, vers où nous allons, et ce que Dieu accomplit en nous à travers ces difficultés. Hébreux, maintenant, chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11. Nous allons lire le verset 1 ici, concernant la définition de la foi. Parfois, les épreuves ne sont pas des épreuves qui nous frappent nous, mais qui frappent quelqu'un autour de nous, par exemple, ou un de nos proches. Et quand vous aimez quelqu'un et que vous voyez la personne souffrir, vous savez vous-même, vous ressentez à quel point cette épreuve est grande. Peut-être c'est la perte d'un être cher, un être que nous aimons. Vous savez, les épreuves qui nous touchent, ce n'est pas celles qui nous frappent nous directement, mais c'est parfois quelqu'un autour de nous, dans notre entourage que nous aimons. Et encore là, humainement, nous aimerions savoir pourquoi, nous voulons savoir pourquoi. Regardez, verset 1, Hébreux 11, nous lisons, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous savons que la foi est essentielle pour plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Alors, même si nous ne comprenons pas pourquoi telle ou telle épreuve nous arrive, ou pourquoi un être cher à côté de nous passe par une épreuve difficile, nous devons réaliser que c'est là que la foi entre en action et doit entrer en action. Pour vraiment pratiquer la patience dans notre vie. Il nous faut réaliser que la patience est liée directement avec la foi, avec le fait de saisir ou de voir la vue d'ensemble, la grande perspective divine pour nous. Sans la foi, sans le fait de voir la vue d'ensemble ou le grand plan de Dieu, il est difficile d'atteindre le niveau de patience que nous devons atteindre. Romains, chapitre 8, Romains, chapitre 8 et le verset 22 maintenant. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance ou avec patience, si vous voulez. Nous attendons quelque chose de merveilleux. Il nous faut le voir, le comprendre, avec foi. Il nous faut le voir avec les yeux de la foi, parce que le royaume n'est pas encore là. Et le retour de Christ, nous ne le voyons pas encore. Mais par la foi, nous pouvons en être certains. Et on ne peut pas pour le moment connaître la raison en détail de toutes nos souffrances ou de nos épreuves. Mais nous savons et nous devons accepter le fait que notre Père dans le ciel connaît, lui, la réponse à toutes ces questions. S'il jugeait bon que nous sachions la raison de ces choses-là, maintenant, il nous donnerait la réponse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais à travers ces épreuves, nous nous en remettons à Dieu et nous devons accepter patiemment que c'est ça la foi, de croire sans voir, d'avoir cette certitude. Allons à Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10 maintenant, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. En d'autres termes, ne vous laissez pas être distrait, être découragé, ou ne négligez pas, ne vous laissez pas aller à abandonner ou à ralentir votre course. N'abandonnez pas votre assurance. Parfois, on a de grandes difficultés et parfois, nous souffrons beaucoup. Mais il ne faut pas laisser cette idée d'abandonner venir à notre esprit. Vous savez, il y a certaines pensées qui sont inspirées par Dieu, mais l'idée d'abandonner la course ne vient pas de Dieu, elle vient de l'adversaire qui veut nous neutraliser ou nous décourager. Et c'est pour ça qu'il est dit ici au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Pourquoi? Parce que vous avez besoin, verset 36, de persévérance, de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Si nous faisons la volonté de Dieu, si nous obéissons à Dieu, si nous le servons de tout notre cœur, nous recevrons l'accomplissement de cette promesse. Verset 37, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Le jour approche où le Christ sera là. Il ne tardera pas. Et je sais que nous avons tous hâte que ce jour-là arrive. Mais ce jour-là est tout proche maintenant. La patience est quelque chose que nous pouvons bien sûr étudier, à laquelle nous pouvons penser. Nous pouvons voir la patience en action dans d'autres personnes. Nous pouvons avoir des exemples de patience dans la Bible. Mais pour que ça devienne une partie intégrante de ce que nous sommes, de notre caractère, pour que notre patience soit connue de tous autour de nous, il faut que ça devienne une partie intégrante de notre caractère pour que ça reflète le caractère de Christ. Il faut que nous devenions le reflet de ce qu'il est. Et c'est quelque chose que nous pouvons développer uniquement par l'expérience. Hébreux chapitre 12 maintenant. Paul compare notre vie chrétienne à une course. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, avec patience, dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les yeux et les regards tournés sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Lui a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, efforçons-nous de développer la patience en nous. Mettons en pratique les paroles de Paul lorsqu'il nous dit « Courons avec persévérance, avec patience dans la carrière qui nous est ouverte ».